Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour et bonne année au passage. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en perspective la métropole de Montpellier, de vous projeter dans son futur, d'identifier les pistes d'une expansion harmonieuse et équilibrée et de l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Avec mes deux invités, nous allons découvrir un organisme inconnu, au mieux méconnu, le Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole. Merci à ces deux coprésidents, Christophe Carniel et Delphine Morel, de répondre à mon invitation. Alors, commençons par vous, Christophe Carniel, par ordre alphabétique ou par ordre d'ancienneté au sein du CODEF, où vous siégez depuis février 2021. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez cofondé et dirigé à Claret, ce qui était étonnant à l'époque, Netia, société spécialisée dans la conception de logiciels pour la radio et l'audio. Vous êtes le cofondateur du dirigeant de Vogo, qui développe et commercialise ses solutions audio et vidéo. Basée à La Pompignane, elle est implantée à Paris, Grenoble, aux États-Unis et, sauf erreur, au Royaume-Uni. Delphine Morel, il y a un an, vous avez succédé à la coprésidence à Pauline Chatin, une vigneronne de Fabrègue. Dans le quartier de La Martelle, mon quartier, vous dirigez deux ESAT, établissements et services d'aide par le travail, structure médico-sociale réservée aux personnes en situation de handicap. Le premier, les ateliers Kennedy, réalisent de nombreuses prestations, entre autres le montage, le conditionnement, la logistique, l'encadrement de tableaux ou les espaces verts. Le second, les stades, la bulle bleue, vous le définissez comme un lieu de fabrique artistique et culturelle au croisement de l'art, du social et du soin. Ça mériterait peut-être une émission, ça sera pour une autre fois. Pour qu'auditrices et auditeurs vous connaissent mieux, une première question, qu'est-ce qui a déterminé votre engagement au sein du CODEF à titre bénévole, je le précise. Christophe Carniel.
Oui, bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, ça fait 4 ans que je suis engagé au sein du CODEV, aux côtés de Delphine également. Moi, je suis né à Montpellier, j'ai fait mes études à Montpellier, j'ai eu l'occasion, mon métier m'a fait voyager un peu partout et m'a fait prendre conscience que Montpellier était une ville formidable et vraiment dans laquelle on pouvait développer beaucoup de choses. Et je ne parle pas que de l'activité économique, bien sûr. Et je me suis dit qu'à un moment donné, je voulais essayer de passer ça pour mes enfants, voilà, pour essayer de contribuer à faire un Montpellier peut-être un peu encore meilleur. Ouais. Voilà, donc c'est l'objet de mon engagement bénévole dans le CODEF sur tous les sujets qui sont des sujets qui préoccupent les Montpelliérains.
Très bien. Et vous-même ?
Alors, merci de nous accueillir. On est vraiment très, très heureux de pouvoir présenter ce CODEF. Vous disiez que ce n'est pas forcément une structure qui est connue par tout le monde, donc vous allez nous aider à pouvoir le faire mieux connaître. Pour ma part, vous l'avez souligné, moi je suis responsable de structures culturelles et médico-sociales et la question du territoire, c'est une question essentielle, même quand on dirige cette structure. Et c'est une question qui l'établissement dont j'ai la responsabilité, porte un projet inclusif. Et donc comment en fait on fait société, comment on partage, en fait, comment on vit tous ensemble avec nos différences, nos difficultés, nos forces, nos faiblesses. Et très rapidement, j'ai bien eu conscience que ça ne pouvait pas se faire qu'au sein de ma structure et que ça venait poser des questions de mon quartier élargi. Et c'est comme ça que j'ai en fait rencontré le CODEF, j'ai rencontré Jean Maillet qui m'a à un moment effectivement proposé de rejoindre. Et c'est une question quand même qu'on se pose tous quand on a un engagement professionnel, quel que soit le type de profession qu'on peut faire, c'est comment on agit et comment on s'engage. Et je pense qu'on est dans une époque de société. Je rejoins le fait que qu'est-ce qu'on va transmettre, en fait, ouais, effectivement, et comment on peut contribuer quand même pour que notre territoire soit plus agréable à vivre. C'est aussi une ville auquel je suis très attachée. Donc, si je pouvais, à mon échelle, apporter quelque chose et être active, eh ben, je trouvais que le CODEF était le bon endroit pour le faire.
Alors, on va en faire la démonstration, je l'espère, dans les minutes qui viennent. Mais avant, vous le savez, un petit détour. Racontez-nous votre Montpellier, à titre personnel, en tant que simple habitant. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brosser collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors Delphine Morel, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement ?
Bon, alors là, il faudrait une émission
alors,
entière, je pense, mais je vais sélectionner très rapidement.
Peut-être les lieux inhabituels,
les lieux.
Pas les alors, lieux de l'Office de tourisme.
Tout enfin, à fait, bah, c'est peut-être les lieux de l'Office de tourisme quand même, mais alors moi, j'ai une entrée dans la ville qui est depuis toujours. Hein, j'ai fait mes études ici, je suis repartie, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Rennes, j'ai vécu à Nîmes, j'ai vécu ailleurs et je suis revenue à Montpellier parce qu'effectivement, c'est un territoire qui me convient. Et je vis beaucoup les villes par leurs lieux culturel parce que je suis passionnée par le théâtre et le spectacle vivant et je trouve que les cafés et les bars de théâtre sont les plus sympathiques et les plus agréables à vivre donc moi j'aime beaucoup aller au CDN des 13 vents, j'aime beaucoup aller à des lieux comme le CDN 13 vents reconnu ou la baignoire, un petit lieu d'écriture contemporaine mais qui est essentiel sur un territoire comme le nôtre. J'aime beaucoup être à la baignoire.
Alors
la baignoire c'est dans le quartier de Gambetta, c'est derrière le Dôme. Autre café très apprécié des Montpelliérains, qui c'est peut-être pas sur les conseillés par l'Office de tourisme. J'habite pas très loin de la halle Tropisme, bien entendu. C'est un lieu que j'apprécie. Je suis contente d'habiter dans ce quartier avec mes enfants. Je vais à la halle Tropisme et puis évidemment au parc Montcalm. Donc c'est des lieux d'une grande richesse. Et juste parce que je vais laisser Christophe répondre et compléter à ma place. Mais évidemment la proximité de la mer quand on élargit un tout petit peu, c'est-à-dire que la mer et la montagne, c'est quand même une des grandes richesses de cette ville. Et en un quart d'heure, on peut à la fois aller au Pic Saint-Loup ou voir un coucher de soleil sur la plage. Et ça, c'est fait partie des lieux que j'apprécie beaucoup sur le territoire élargi de la métropole de Montpellier.
Très bien. Alors, poursuis ce petit parcours, là, Christophe.
Oui, alors, je ne vais pas être très, très original. Bon,
l'essentiel, c'est d'être sincère.
Voilà. Sincère, oui, parce que moi, je suis né à Montpellier, j'ai grandi à Montpellier, j'ai toujours habité à Montpellier. Je dirais, au fil des âges, des moments différents, là, mes lieux ont évolué. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup... les lieux de culture et peut-être de par ma passion et mon métier aussi les lieux de sport. Donc je vais souvent voir des rencontres sportives et on est gâté en termes de sport aussi à Montpellier.
Mais par contre à la Mosson ou au rugby,
à l'aréna, au handball. Enfin bon voilà donc moi ça fait partie aussi de mon métier. Mais finalement le Montpellier que j'aime. C'est ce que disait un peu Delphine, c'est le Montpellier qui va du Pic Saint-Loup à la mer. C'est celui-là, moi, qui me plaît beaucoup.
C'est-à-dire les paysages successifs.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller faire une randonnée, aller faire un moment au bord de mer, manger des huîtres au bord de l'étang de Thau. Enfin, c'est vraiment cette diversité de proximité qu'on a du Montpellier. De plaisir. Déambuler aussi dans le centre-ville, dans l'écusson de Montpellier. Enfin, dans la même journée... On peut faire vraiment trois choses qui sont extraordinaires à Montpellier. Et je pense que c'est une des rares villes où on peut se permettre de faire ça. Et plus ça va, plus j'aime faire ça.
Voilà. Ah, très bien.
Voilà.
Alors, on va mettre des points de suspension là, sur cette question et en venir au sujet qui nous rassemble au micro de divergence. Alors, le Conseil de développement, on va voir ça depuis peu, n'est pas un vague cénacle, mais une structure officielle installée auprès du Conseil métropolitain, créée en application de la loi de 1999 qui s'appelle « Orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire », dite « loi Voynet », qui était alors Dominique Voynet, ministre de l'Environnement. Christophe Carniel, à rentrer, quelles sont les missions qui vous sont confiées au CODEV, au terme même de la loi ?
Alors, je pense qu'au-delà de la mission, de la définition de la mission du CODEV, ce qui est important, c'est de dire que le CODEV est un organe qui permet de lever un peu la tête et de réfléchir à ce que Montpellier pourrait être à un horizon 2040 ou 2050. Et ça, quand on a ce préambule-là...
Cette manière de se projeter à 20, 30 ans.
Et ce recul, peut-être qu'on n'est pas dans l'instantanéité et on peut arriver rapidement à déterminer quelles sont les problématiques et comment on va pouvoir les appréhender. Alors, c'est pour ça que le mode de fonctionnement des 110 membres du CODEV, qui sont, peut-être on en dira deux mots, ce mode de fonctionnement-là, il est soit d'auto-saisine, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont été décidés par les 110 membres et qui les intéressent et qu'on va travailler en groupe de travail ou en commission, ou, ben, comme on est quand même un organe de la métropole, des saisies de la métropole elle-même.
Qui vous dit, travailler
sur ces sujets. Voilà. Et 110 personnes, donc c'est une une instance très importante, hein, le CODEV. 110 personnes issues de collèges différents, donc qui sont issues, bien sûr, de Montpellier, des communes de la métropole, des institutions, des innovateurs, qui ont été complétées récemment par une liste de personnes motivées à intégrer le conseil développement de la métropole, qu'on appelle les invités, qui sont de la permanente. Vous imaginez la richesse et la diversité que ça représente.
Y compris de gens qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. Peu.
Je pense que voilà. Delphine et moi, on en est un peu...
L'incarnation.
Une représentation. On est par nos on vit ensemble. Mais par nos activités professionnelles, on est différents. Voilà, la richesse qu'on peut... Que tous ces gens-là peuvent produire dans ce collectif, c'est absolument important.
Donc, bon, les collègues, on va le dire rapidement, le collège des habitants, notamment issus des conseils de quartier et du conseil Montpellier-Rennes de la jeunesse, les 30 communes, le collège des innovateurs, acteurs socio-économiques, dont on voit ce que c'est, bon, notamment des gens de votre espèce, si j'ose dire, et enfin le collège des institutionnels.
Alors, pour compléter et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, mais c'est vrai que moi, j'ai découvert cette instance et ce collectif, parce que c'est vraiment un collectif de citoyens et ce n'est pas un collectif de techniciens. Et, et j'ai trouvé d'une extrême richesse, effectivement, cette diversité d'âge, de profil, de technicité. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont un regard très technique parce que par leur vie professionnelle ou simplement d'usager, en fait. Et finalement, si on réfléchit bien, en fait, dans nos vies, on a très peu l'occasion de croiser les regards, c'est-à-dire qu'on va soit discuter, échanger avec les personnes avec qui on travaille et qui ont une technicité proche, soit avec notre environnement social. Bah, en fait, au bout de quelques années où on vit dans une ville, finalement, il y a quelque chose qui est très récurrent. Mais avoir l'occasion de parler très librement, parce qu'en fait, je peux témoigner, les citoyens qui se participent, ce n'est pas pour nuancer leurs propos, ils viennent vraiment dire comment ils envisagent leur vie actuelle sur le territoire, et effectivement, comment ils le projettent dans 10, 20 ans, et avec une grande liberté de pensée et un grand respect, parce qu'il y a quand même une sorte d'autonomie très forte, en fait.
Donc, ça, c'est chacun... très agréable pour le coup.
Bah, c'est riche, et en plus, on est quand même très alimenté par des regards d'expertise, puisque par ailleurs, avec les coordinateurs et les membres du bureau, on organise des plénières ou des conférences. Et là, il y a des regards un peu des expertises qui viennent nous alimenter. Donc, il y a quelque chose aussi qui est très formatif, en fait. C'est réflexif, c'est prospectif. Et c'est aussi formatif pour nous-mêmes en tant que citoyens. C'est-à-dire que c'est 110 citoyens qui, à hauteur de leurs possibilités d'engagement, vont être formés sur ce que c'est un territoire, ce que c'est la citoyenneté, ce que c'est un territoire qui se développe. Et ça, on est tous à la base, pas novices, parce qu'on tient un élément du puzzle par nos vies et nos pratiques professionnelles. Mais la globalité, c'est rare de pouvoir la toucher du doigt. Et là, cette transversalité-là, on peut un peu la percevoir. Et on percevoir la complexité aussi, parce qu'évidemment, on n'est pas tous d'accord. On ne perçoit pas le territoire de la même façon.
Donc, pour résumer ce que je retiens, là, bon, je n'avais pas tout à fait précisé la question, mais je me semble très intéressante, c'est que le climat, je veux dire, la constitution donc, de ce groupe, hein, avec des éléments épars, ou en tout cas très différents, et le climat qui règne, les méthodes de travail que vous mettez en œuvre, donc vous pouvez dire un mot, au-delà des plénières, ont un caractère fructueux. Il y a une espèce de fécondité du CODEV, on va en voir des exemples, qui résulte de cette manière de faire et peut-être de vivre le CODEV.
Alors, il y a une production qui est très, très importante. Hein, et d'ailleurs, on parlera du faire savoir de ces productions du CODEV. Je crois que c'est un sujet très particulier. Et effectivement, il y a une fécondité un peu hors norme qui est due à la structure même de la composition du CODEV. Peut-être ce que moi je traduis par le mot bienveillance aussi, parce que on écoute, c'est-à-dire qu'on donne son avis, on écoute, et de là on arrive à produire quelque chose qui même si on n'est pas tous d'accord au départ sur des commissions, des thématiques, des groupes de travail, on se met d'accord sur on arrive à se mettre d'accord sur un process collectif et qu'on va proposer. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de tout ça.
Alors, dans cette abondance de production, vous l'avez indiqué, née du partage des savoirs, Delphine Morel l'a dit, et de la réflexion collective, quelles sont, selon vous, les plus significatives de l'apport spécifique du CODEV? Il y a d'autres acteurs de la contribution, je dirais, à la vie publique, des élus, des techniciens, des prestataires, les services de la collectivité, notamment de la métropole de Montpellier. Mais qu'est-ce que sont ce qui vous spécifie, qui vous identifie, peut-être, Delphine Amour, ce qui est de particulier, autant que vous le sentiez?
Alors, j'essaie de répondre c'est de comprendre votre question. Et, enfin, ce que j'entends dans votre question, et parce que j'y réfléchis, en fait, j'entends comme un désir d'objectif de résultat, en fait.
Oui,
mais on se pose cette question-là,
bien
nous
sûr,
aussi,
ouais.
bien sûr. Mais
on
en
y
fait,
reviendra.
4 ans, c'est pas non plus un temps très long. Et je crois que l'enjeu, c'est pas de se substituer à des techniciens. Ben, vous l'avez très bien dit, à des techniciens ou être un groupe de conseillers bis ou terre. C'est vraiment d'avoir cette capacité de générer une réflexion. Alors, évidemment, y a des idées qui émergent. Moi, ce que j'ai pu en observer sur l'année écoulée, c'est effectivement cette méthode de partage de réflexion. Et donc, des idées qui vont se définir et se déployer. Mais c'est aussi un déplacement, en fait, des personnes qui y travaillent dans leur engagement citoyen. Et ça, je pense que c'est déjà énorme comme objectif. Alors, moi, à proprement parler, mais Christophe pourra peut-être mieux répondre, moi, je ne peux pas vous dire précisément telle mesure a été prise parce que ce n'est pas vraiment l'objectif.
Non, c'était plutôt la fécondité. Bon,
la fécondité. Alors moi, je ne veux pas prendre le terme que tu as utilisé, que je te laisse, mais que je trouvais très beau. Effectivement, en fait, il va y avoir un effet de rayonnement et on va impacter au fur et à mesure. Il y a quand même des élus qui participent à nos réflexions, donc qui relaient. Il y a des temps de rencontre avec le président de la métropole pour aussi faire des bilans, qui ne sont pas tous les ans, mais en tout cas tous les deux ans. Et puis, en fait, ça se réfléchit aussi sur un mandat et comment, en fait, aux clôtures de ce mandat-là, on va pouvoir faire une proposition. Donc là, on est en cours de réflexion aussi sur le bilan très global de ces 4-5 années.
Très bien. Alors, vous avez évoqué les conditions dans lesquelles vous travaillez. Bon, l'autosaisine, vous prenez en main un sujet à votre initiative, à l'initiative des membres du COVEN, ou la saisine, bon, l'autorité, hein, en l'occurrence, la métropole et son président, Michael Delafosse, vous a demandé explicitement de travailler sur deux grands thèmes. L'un sur la démocratie, l'engagement citoyen, la formule du maire-président. L'autre sur la feuille de route de la métropole, avec ce qu'on appelle le projet de territoire. Alors, quels sont, à grand T, les points saillants de ces deux chantiers? Ils sont en cours. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce jour pour montrer quelles sont les premières orientations que vous avez pu prendre sur chacun de ces deux sujets, peut-être Christophe Carniel sur l'engagement citoyen ou sur le projet de territoire, peu importe, pour apporter aux auditeurs une compréhension du type de travaux que vous faites et ce que ça produit, de ce que ça donne.
Alors, je vais peut-être, si vous permettez, commencer par répondre pour le projet de territoire.
Oui,
parce
volontiers.
Que c'est un
oui.
sujet d'actualité et y a une société qui travaille à l'initiative. D'ailleurs, de la métropole de Montpellier.
Oui, il y a un appel d'offres avec
voilà,
un appel
d'offres. Voilà. Sur le fait qu'effectivement, ce territoire, ce grand territoire, enfin, je ne sais pas comment on peut le bien définir, qui concerne d'ailleurs pas uniquement Montpellier.
Bien sûr.
Et qui s'étend, on en parlait, du Pic Saint-Loup à
avec
à
les intercommunautés voilà. voisines.
Bon, voilà, il se trouve que ces quatre autres intercommunalités ont également des CODEV. Donc on a pris à notre initiative, finalement, de réfléchir, que les citoyens réfléchissent à cette thématique
à
cette échelle-là. Donc on a organisé systématiquement une série de 3 réunions sur 4 thématiques qui ont été sélectionnées de manière collective par les CODEC, qui sont la résilience du territoire,
oui.
les mobilités, le développement économique et la démocratie. Voilà, donc ce sont les sujets sur lesquels des réunions entre ces 5 CODEV-là sont organisées. Et on a pour objectif de produire à la fin du premier semestre 2025, donc demain matin, hein, un rapport qu'on communiquera aux élus et qui pourra servir, on l'espère, en tout cas c'est un peu l'objectif, de base à la réflexion.
D'accord. Dans cette échelle territoriale-là, comme ça a été le cas pour la candidature de Montpellier...
Il y a un peu de ça.
Voilà. Ouais. Comme c'est le cas sur les problématiques que je crois que j'ai un peu travaillé, de mobilité, de réseau de transport collectif, et j'avais un autre exemple en tête qui ne me vient pas, c'est-à-dire... Bon, Michael Delafosse, dès le début, il a installé la vision, la réflexion auquel il a engagé les élus et leurs collaborateurs dans cette dimension territoriale-là.
Moi, nous, on n'est pas élus au CODEV, hein, mais si j'étais élu, je serais ravi d'avoir un peu ce retour de la citoyenneté du territoire concerné. Enfin, je pense que ça va être un document extrêmement important et qui est un retour de plus dans le process, les processus de décision qui devront être réalisés.
Alors, Delphine Morel, un mot sur l'autre chantier, l'autre devoir que le professeur de la Fosse a demandé au CODES sur l'engagement citoyen.
C'est une question, c'est la colonne vertébrale sans doute d'un projet comme le CODEV. Et effectivement, Christophe évoquait le travail qu'on engage avec les autres CODEV, parce qu'en fait, on s'aperçoit bien que c'est une réflexion qui est bien plus large que celui de la métropole de Montpellier. Et la question de... Parce qu'on a fait une première réunion sur la démocratie et la participation citoyenne, et quand même, il faut le souligner, ce que relèvent tous les membres de tous les CODEV, c'est cette difficulté, en fait, du participatif et de l'animation de la démocratie. Donc, en fait, on fait aussi un constat de cette difficulté à le générer, et on essaie de trouver des modalités, et on confronte nos expériences et pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, il y a des exemples de budget participatif, il y a des exemples de référendums locaux, ça sera à nous, effectivement, de pousser. En fait, on a ouvert la réflexion du CODEV de Montpellier aux autres CODEV, sur la démocratie. Et moi, ce que j'ai vraiment retenu la première réunion qu'on a pu faire, c'est quand même cette forme de désarroi sur cette question-là, où il y a un gros désir de la part des citoyens de pouvoir participer ou d'être sollicité, et une difficulté quand même à être en action, à consacrer du temps pour le faire. Et donc, comment nous, avec l'expérience qu'on accumule, on peut faire des propositions opérationnelles sur ça. Pour dire aussi, en septembre, on a fait une rencontre de tous les CODEV d'Occitanie, donc c'est très important, sur des méthodes justement d'éducation populaire, hein, de comment on arrive à échanger et à co-construire sur des méthodes qui soient moins descendantes, moins classiques. Et ça, c'est aussi ce qu'on apprend progressivement, puisque ce n'est pas forcément des méthodes qu'on connaissait.
Très intéressant, très passionnant. J'ai eu l'avantage de travailler sur ces questions. Il y a des faux-semblants, il y a des impasses. Et donc, pour arriver à des choses dont le caractère effectif et fécond et productif de ces démarches reste parfois...
Et donc là, on est au milieu d'un chemin sur cette question de la participation citoyenne à la démocratie. On fera des propositions. Avec plaisir de venir vous présenter ce sur quoi on va essayer de s'appuyer, et pas non plus... construire des choses qui seront illusoires, en fait, parce qu'elles ne seront pas opérationnelles.
Très bien. Alors, là, on est sur quelques fondamentaux, donc sur la base de ces chantiers. Le CODES se distingue aussi par l'originalité de certains sujets et par le caractère novateur du traitement de sa production. Originalité de certains sujets, comme celui intitulé, dans un premier temps, « Améliorer la vie nocturne des habitants », et dans une deuxième vague de ce travail, Nuit et solidarité, lequel d'entre vous peut en dire un mot, Christophe, peut-être ?
Oui, je peux en dire un mot, parce que c'est une auto-saisine du CODEV au départ. C'est-à-dire que c'est un sujet qui... beaucoup de CODEV en Occitanie et en France travaillent sur un certain nombre de sujets. On l'a vu, l'eau, l'engagement citoyen, l'économie sont des sujets qui concernent beaucoup de territoires. Et celui-là, il a vraiment tout de suite prouvé s'est démarqué par son originalité. Alors, il y a des travaux...
Et sa pertinence.
Alors, d'abord son originalité, oui. Montpellier la nuit. Alors, on a commencé à faire intervenir des personnes, à faire un inventaire de cette vie, cette vie nocturne montpelliéraine, avec tout ce que ça peut représenter, avec vraiment des métiers, des sujets, des interventions, quelque chose de parfois opposé au jour. Voilà, ouais. Y a beaucoup de sujets autour de tout ça. Et dans un deuxième temps, parce qu'on fait des bilans réguliers, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette autosaisine ? Elle était tellement pertinente et passionnante. Vous l'avez dit vous-même, elle a changé de nom et elle s'est caractérisée. Et aujourd'hui...
Il y a un premier choix dans les multiples sujets auxquels l'étude de ce qui se passe dans la nuit peut conduire. Solidarité, ça parle quand on sait le nombre de personnes, plusieurs centaines qui dorment dans la rue, y compris les enfants.
Et puis ça concerne, quand on dit solidarité, ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et effectivement, c'est un sujet qui, pour le coup, son originalité, sa pertinence ont fait qu'on a eu rapidement l'écoute des élus. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a fait perdurer.
C'est une première grande réponse à quoi sert le CODEV. Alors, le temps tourne, on avance. Alors, j'ai parlé d'une autre forme d'innovation. c'est le choix qui a attiré mon attention, pour le coup, de s'éloigner du traitement technique, voire technocratique des dossiers, et de présenter réflexions et propositions par la fiction, avec les passionnants, je pèse le mot, prémices d'un récit du territoire, avec deux scénarios très contrastés du futur du territoire. Le premier, la catastrophe, un paysage et une société effondrée. Et le second, la biocroissance, un territoire accueillant et bienvenant. Ce travail en cours donc a été suivi l'an dernier d'une série de nouvelles du territoire, nouvelles au sens littéraire du terme. Alors, Delphine Morel, comment vous êtes pris pour prendre cette voie inattendue et pour le coup passablement excitante?
Alors, en fait, ça repose sur les groupes, les commissions, les groupes de qui se réunissaient sur chaque thème. Et effectivement, ce choix a été fait. Alors, il y a ces commissions, puis il y a un bureau, en fait. Donc, Christophe et moi, on participe à ce bureau. Et donc, moi, quand je suis arrivée, il y avait une réflexion sur quelle modalité de restitution allait être mise en œuvre. Et donc, ça a été le choix de la nouvelle qui a été décidée. Et donc, sur des scénarios fictifs. Et donc, chaque groupe a pris...
C'est la métropole en 2050, je n'ai pas donné la précision.
Oui, voilà, tout à fait, sur ces thématiques-là. Et chaque groupe a rédigé une fiction. Et donc là, alors, nous, on n'a pas participé en tant que tel à cette réflexion-là, puisqu'on n'est pas... c'est vraiment porté par chaque...
Une bonne quinzaine de membres d'une mémoire. Là,
Oui, sur chaque thématique. Et donc là, il y a eu des auteurs, hein, des écrivains, effectivement. Vous soulignez la qualité, en fait, rédactionnelle. Et donc, ils ont eu cette liberté d'écrire. Après, il faut savoir qu'il y a une équipe qui nous accompagne, Jean Maillet et Catherine Lendemaine. Et il y a eu un travail aussi d'éditorial, ouais, aussi, de nous aider. Aider les membres à avoir ces écritures-là.
D'accompagnement, de lissage.
Voilà, tout à fait. Et c'est une volonté de rendre les choses accessibles. On se questionne, sur, justement, puisqu'on part sur quatre nouvelles thématiques pour 2025, et on se questionne sur quelle forme ça pourrait avoir. À un moment, on envisageait un podcast. En fait, comment, en fait, plutôt qu'un rapport un peu massif...
C'est le faire savoir, donc, Christophe, quand on y a parlé tout à l'heure. On peut connaître ces quatre thématiques, exclusivité mondiale pour Divergence.
On est un peu dans la continuité, puisqu'il y a toujours l'eau, donc ça c'était
qui est un thème majeur
et qui est un sujet important. L'engagement citoyen, c'est vraiment le pilier quand même des CODEV. L'économie sociale et solidaire, et donc il y a une nouvelle thématique qui est la culture. Et la dimension inclusive de la culture. Donc ça, c'est le thème un peu nouveau qui émerge.
Il n'était pas pour rien, je suppose.
Tout... Alors, je ne l'ai pas imposé du tout, mais en tout cas, je pense que c'était une envie du CODEV de s'ouvrir aussi à cette question-là, alors qu'évidemment, il y a une dimension économique et d'urbanisation et environnementale qui sont très forts depuis le début. La question culturelle était peut-être encore insuffisamment présente. En tout cas, c'est l'échéance qui arrive maintenant. Et donc, c'était un souhait global du bureau. Il faut savoir que ces thèmes ont été décidés. Il y a eu une réunion plénière avec les membres, les participants. Et il y a eu un questionnaire. Ça a été choisi collectivement.
La démocratie bat son plein, on connaît.
Voilà. Il y avait d'autres thématiques qui n'ont pas été majoritaires.
Vous l'aviez dit. Il y avait eu une première démarche dans le cadre de la candidature de la culture européenne. Donc ça a montré qu'on pouvait faire des choses aussi entre territoires et ça a été positif. Je voulais juste revenir sur le faire savoir parce que ça me paraît important. Si vous avez remarqué que nous on essaye d'interpeller. On travaille et on interpelle.
Oui.
Et si vous avez été interpellé par la façon dont on a restitué ces travaux-là, c'est un point positif pour le CODEV. Parce que ça veut dire qu'on peut interpeller par ailleurs, y compris les élus, y compris les personnes qui vont lire ces documents. Et c'est un peu la démarche. C'est un peu ce qu'on cherche aussi à faire. Donc ce choix de le faire par les nouvelles, par un mode un peu là aussi original, fait que on arrive à faire passer nos messages aussi à travers ça.
Alors, certaines missions, il va peut-être contribuer. Alors, on arrive au bout, là. Il y a des questions qu'on avait évoquées qu'on ne pourra pas traiter. En tout cas, de mon point de vue, c'est la raison pour laquelle j'ai eu plaisir à vous inviter, à vous avoir ici aujourd'hui, c'est que ce que fait le CODEM me semble valoir davantage que la manière dont c'est perçu. Je veux dire, il y a moyen, voilà. Donc ça, après, il y a des choix, il y a des priorités. Mais ça mérite d'être connu. Et c'est ce à quoi nous avons essayé de faire aujourd'hui. Donc je vous remercie, Delphine Morel et Christophe Carniel,
merci
de
beaucoup.
Votre contribution à l'éclairage des auditeurs et auditrices de Divergent. Merci et à une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroque.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.